votre nouveau rendez-vous sur la Hip Hop Soul Radio.
Très bonne soirée à l'écoute de la Hip Hop Soul Radio. C'est la Mal El Pistolero pour l'Octogone. L'Octogone, c'est tous les dimanches sur Génération, la meilleure radio del mundo. Et pour un octogone magique, incroyable, aujourd'hui, on est avec Sophie. Comment tu vas, Sophie ?
Ça peut aller mieux.
Ça pourrait aller mieux ?
Ouais.
Ah. On va raconter un peu. Sophie, c'est une mère de famille qui se bat pour récupérer justement la garde de ses enfants. Le 13 février 2023, trois de ses quatre enfants, parce que tu as quatre enfants, Sophie.
Ouais, c'est ça.
Trois de ses quatre enfants ont été transférés chez leur père, accusés de violence et d'inceste. Le quatrième enfant, normalement aussi, qui a deux ans, ouais, c'est ça, devrait aussi être chez son père. Mais Sophie en a décidé autrement. Elle a décidé de protéger son enfant. Et depuis ce moment-là, depuis que tu décides de protéger ton enfant, tu es en cavale.
Ouais,
tu es recherché par la police.
Ouais.
Voilà,
j'ai eu un mandat d'arrêt. Voilà. J'ai déjà été arrêté une première fois.
Exactement. Tu as été incarcéré,
ouais,
le 29 mars 2023,
ouais,
pendant trois semaines. Trois, ouais, semaines de prison.
Mmh. C'est ça.
Parce que tu ne voulais pas...
On m'a poursuivi pour soustraction d'enfants parce que le tribunal de Chartres refuse d'appliquer le principe de précaution et l'état de nécessité et privilégie la présomption d'innocence malgré toutes les preuves accablantes, les expertises, le rapport du MJ... les signalements d'école, voilà, et des enregistrements faits à son insu qui ont été dans une partie que j'ai fait retranscrire par huissier de justice pour que ça soit valable, mmh, comme preuve à pouvoir produire en justice. Et le tribunal de Chartres s'obstine à ne pas vouloir étudier les preuves et surtout les enregistrements qui sont très très édifiants et très accablants.
On va raconter toute cette histoire en détail, dans les moindres détails, si tu peux nous accorder ça, justement. Mais déjà, on va se pencher sur le fait de ta cavale. Il faut savoir que toutes les semaines, tu changes d'endroit. C'est vraiment une vraie cavale, en fait.
Oui, parce qu'en fait, mes obligations de sortie, en fait, on m'a libérée. C'est avec plusieurs conditions. Parce qu'apparemment, je suis folle, donc j'ai une obligation de soins. Donc j'ai une obligation de soins.
Je risque rien ou t'as...
Non, non, tout va bien.
On ne sait jamais.
Et
j'ai ma sécu, il y a Pierrot avec moi.
Et dans mes obligations principales, c'est de livrer ma fille comme si c'était une proie à son prédateur. C'est de la livrer dans les plus brefs délais. Sinon, mon sursis probatoire de 10 mois risquerait de sauter. Et donc, je serais à nouveau incarcérée si je ne livre pas...
Pendant 10 mois, donc.
Oui, voilà.
Moi, j'ai un premier coup de gueule à passer. Je suis comme ça, je passe souvent des coups de gueule. Le premier coup de gueule, quand j'entends ça, déjà, la justice est malade. La justice a besoin d'antibiotiques. La justice a besoin d'une mise à jour, je pense. Parce que ça tourne pas rond dans leur tête et leur cerveau. Parce que ce que tu fais, en tout cas, c'est juste protéger, en tout cas, ton enfant. Et... pourquoi je te dis que la justice est malade ? Parce que quand on voit ce qui se passe à la télé, que ce soit Pierre Palmade ou que ce soit des autres personnes qui violent ou des pédophiles, oui, ou autres, qui ne sont pas arrêtés, qui ne vont, non, pas en prison.
Non.
Alors que toi, tu n'as commis aucun délit.
Il y a une totale impunité de l'agresseur en France qui est flagrante et qui est effrayante. C'est-à-dire qu'une personne qui vend du shit, un petit dealer, va prendre de la prison ferme. Parce que c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les poches de l'État, je suis désolée de le dire. Mmh. Mais un violeur, eh ben, il va prendre du sursis. Parce qu'ils vont le considérer qu'il a des pulsions ou qu'il a des problèmes psychiatriques. Ou, ils vont toujours essayer de trouver quelque chose pour minimiser la peine. Et c'est quelque chose qui est effrayant. Il y a une totale impunité de l'agresseur en France. C'est une vraie gangrène et c'est un vrai problème de société aujourd'hui.
C'est incroyable. Sophie, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais juste un peu rappeler, et tu me diras si je me trompe, en revenant du week-end chez leur père, comment tu as découvert en gros que leur père faisait des attouchements, on va dire, sexuels à tes enfants. C'est tes enfants auraient révélé des violences physiques, verbales, sexuelles aussi. Ta première fille de 4 ans a été la première à se confier.
Oui, tout
C'est ça. Après un refus de se déshabiller pour le bain, son père lui aurait touché les fesses et la zézette.
Ouais, c'est ça.
C'est ce que elle.
Il faut savoir que le motif de séparation principale, c'est les violences qu'il infligeait aux enfants. Il a une méthode éducative qui est très brutale, donc il a tendance à passer toutes ses nerfs sur les enfants, chose que moi, je suis en totale contradiction, puisque moi je privilégie une éducation bienveillante et je supporte pas qu'on éduque un enfant avec des coups parce que. Un enfant n'a pas besoin de coups, en fait, on peut très bien lui parler, un enfant comprend tout ce qu'on lui dit, même avant sa naissance, même in utero, donc il n'y a pas besoin de violence pour se faire écouter, se faire obéir. Donc,
De toute façon, la violence ne résout rien. Hein.
Non.
J'ai vu des gens se faire frapper et continuer à faire leurs bêtises, et des gens ne pas du tout se faire frapper et stopper les bêtises, ça dépend comment c'est fait, ça dépend comment c'est dit. Ouais. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas besoin de violence, en tout cas la violence ne résout rien, comme tu le dis si bien. Après, ton garçon de 8 ans a également témoigné aussi auprès de son maître d'école,
ouais.
En racontant les faits de violence et d'inceste, et qu'il avait peur de retourner en gros et de rentrer chez son père.
Ouais, tout à fait. Donc moi, en fait, je ne savais pas du tout qu'il avait révélé ça à son maître. Je voulais que ça reste vraiment dans le huis clos familial et que je puisse faire les procédures moi-même et les accompagner moi-même dans tout le protocole, plainte, etc. Et je suis appelée un jour par la gendarmerie de ma région qui me disent « Votre fils a révélé des choses assez graves à son maître d'école, êtes-vous au courant ?» Et je lui dis non, je ne suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Et donc là, il me raconte voilà ce qu'il a raconté à son maître d'école. Il est assez effrayé, donc le maître d'école va faire un signalement à l'inspection académique et on va l'entendre en audition. Donc voilà, je pense que mon fils a craqué parce qu'en fait, plus quand c'était le week-end de son père, c'est-à-dire dès le jeudi ou vendredi, mes enfants avaient des symptômes assez somatiques. Mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai pas envie d'aller à l'école. Donc je pense que mon fils, ce jour-là, a craqué, il a dû tout révéler à son maître.
Moi, j'ai envie de savoir, quand on est mère d'enfant, comment on réagit la première fois qu'on entend sa fille ou son fils dire « Voilà, j'étais chez papa et il m'a touché la zézette, il m'a frappé, et, etc. » Comment on réagit? Comment ta première réaction, ça a été quoi?
En fait, c'est un peu comme un déni. En fait, on est dissocié complètement de la réalité. En fait, notre cerveau, il a intégré l'information, mais il y a une autre partie du cerveau qui dit « Mais non, en fait, c'est pas vrai, c'est cette information est erronée. » Donc, on est complètement dissocié, en fait. C'est un peu comme les personnes qui ont subi un choc et en fait, ou un stress post-traumatique, c'est assez violent. En fait, elles refusent la réalité. Elles refusent la réalité et elles veulent faire comme la boîte noire... Voilà, tout rebooté, et en fait, non, j'ai rien fait, j'ai rien entendu, j'ai rien subi, il n'y a rien. Et en fait, oui, c'est un peu ça. On se retrouve complètement dissocié. L'information, on l'a intégrée, mais il y a une autre partie de nous qui dit non, c'est pas vrai, en fait.
C'est pas possible.
Voilà.
Et quand on se rend compte, alors que c'est possible, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que toi, déjà, tu as fait la première fois?
Moi, évidemment, j'ai cru ma fille, parce qu'un enfant de 4 ans n'invente pas ce type de choses. C'est une certitude. Mais je voulais apporter quelque chose de plus avant de faire mes plaintes. Et je me suis dit, déjà, la parole de l'enfant en France est pas écoutée du tout. Vraiment, un enfant, il a des droits, il a des devoirs, mais il a aussi des droits. Et je voulais, en fait, accompagner mes enfants, mais dans toutes les procédures, mais en ayant des éléments de preuve. Donc, effectivement, j'ai commandé dans une boutique spécialisée un enregistreur espion. Qui a une autonomie assez grande et une portée très très grande. C'est-à-dire qu'on peut le mettre au premier étage, il peut enregistrer le sous-sol.
Ah ouais?
Oui. Donc,
même la police n'ont pas ça. Toi, t'as réussi à te procurer ça.
Voilà.
C'est incroyable ça.
Et donc pour...
Excuse-moi de te couper. C'est incroyable quand même ce pays, parce que tu disais dans ce pays, les enfants, en gros leurs paroles ne valent rien, un peu. C'est en gros un peu ça.
Oui.
Ce pays, il est un peu contradictoire parce qu'il y a une expression française, je ne sais pas si tu la connais, qui dit « la vérité sort de la bouche des enfants ».
Quand ça arrange les personnes. Mmh. Effectivement, quand ça arrange les personnes. Mais il faut savoir que cette année, il y a eu la rapporteuse spéciale de l'ONU qui s'appelle Rim Al-Salem et qui a pointé du doigt la France, qui ne respectait pas les conditions concernant les violences faites aux femmes et aux enfants, mais surtout aux enfants. Donc, l'ONU fait une piqûre de rappel à la France qui ne respecte pas les obligations concernant les droits des enfants. Et le rapport est édifiant. Il date de mai, donc c'est assez récent. Mmh. Et il pointe du doigt tous les gros dysfonctionnements concernant la protection de l'enfance en France. Donc, effectivement. Donc, je reviens un petit peu au mouchoir que j'ai, j'ai commandé. Mmh. Il se déclenche au bruit et au mouvement pour garder une autonomie. Et donc, je l'ai cousu à l'intérieur du doudou de ma fille. Donc, il est imperceptible. Il ne fait aucune lumière. Et quand ils sont partis chez lui pour son droit de visite et d'hébergement et qu'ils sont revenus, j'ai tout décousu, j'ai branché ça sur mon PC et je fais ça quand le soir les enfants sont couchés et j'entends effectivement que les violences physiques et verbales sont H24, vraiment. Mes enfants pleurent toute la journée chez lui, des insultes. Des coups, mais non, je t'ai pas touché. Et ça, c'était un peu sa phrase favorite quand il frappe les enfants et que les enfants, bah, ils pleurent. Non, je t'ai pas touché. Arrête. Donc, j'entendais ça, j'entendais les insultes.
Combien de temps t'as mis le tracker, le mouchard, on va dire?
Je l'ai mis pendant 2 mois.
Pendant 2 mois?
Ouais.
Ça veut dire que pendant 2 mois, tous les jours, t'entendais tes enfants pleurer?
Il y a une partie que j'ai transférée sur le PC, les éléments les plus graves. Que j'ai amené aux gendarmes en complément de plainte. Et en fait, les autres, j'ai continué à
écouter.
Voilà.
Mais ce que je veux dire, c'est que pendant tout ce temps-là, t'entendais tes enfants se faire violenter, on va dire.
Ouais, ouais.
Et.
Bah, en fait, j'en parlais. Je lui en parlais. Je disais, oui, les enfants me racontent que tu as fait ci, tu as fait ça. C'est assez grave. Apparemment, tu continues de les frapper. Et en fait, il mentait en fait, il disait non, c'est pas vrai, vous dites n'importe quoi à maman, c'est pas vrai, pourquoi vous avez dit ça? Alors que moi j'avais la preuve, et pas que seulement la parole de mes enfants, mais j'avais la preuve via l'enregistreur. Mais il continuait en fait dans ses mensonges. Mais c'est assez dur, moi ça m'a, c'est dur hein, d'écouter, hein, parce que il y a des fois où j'arrêtais d'écouter, où je mettais mon casque et j'arrêtais, et je reprenais 2 heures après, ou je reprenais le lendemain, c'était à chaque fois des coups de poignard en fait ce que j'entendais. Et le plus difficile, c'est les passages de nuit. Donc ça, ça a été assez dur. Ça a été assez difficile.
Passage de nuit, c'est-à-dire
En fait, ce que mes enfants me révélaient, il s'avérait que c'était vrai. C'est-à-dire qu'ils les réveillent en pleine nuit pour vaquer à des pratiques sexuelles. Donc, on entend ma fille... on entend vraiment la porte, le bruit de la porte s'ouvrir. On entend les pas, quand même, du parquet. On entend que ma fille, quand même, est en plein sommeil. C'est quand vous réveillez quelqu'un qui est en plein sommeil, qui fait « Hein, quoi ?» Enfin, voilà, c'est un peu ça. Moi, j'entends ma fille. Hein,
fille de quel âge?
Ma fille, elle a 4 ans.
Celle de 4 ans.
Voilà.
D'accord. Donc, et en plein sommeil, ouais.
Voilà, et puis j'entends qu'elle dit non, je veux pas, avec la voix encore. Il vient de se réveiller. Elle lui dit, mais non, je viens te faire un massage seulement. Et pourquoi on fait un massage à un enfant en pleine nuit? Pourquoi faire? Et ma fille qui elle résiste, qui dit non, je veux pas. Et puis, en fait, lui, il continue, ce que j'entends dans l'enregistreur. Et ma fille pleure très, très fort. Pleure vraiment de supplice. Ça fait mal. Arrête, je ne veux pas. Et voilà. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait retranscrire par huissier pour que ça soit valable en complément de plainte et que ça soit valable en élément de preuve pour le pénal.
Donc, tu entends le soir ta fille en gros se faire toucher sexuellement.
Ouais.
Pourquoi tu vas pas chez le père directement pour lui casser sa bouche? Je sais pas. Comment t'arrives à.
J'avais cru en la justice à ce moment-là. Je me suis dit, les enfants, il y a une brigade spéciale qui s'appelle la brigade des mineurs. Ils ont un des protocoles assez. Spécialisés, ils ont une équipe spécialisée. J'avais cru ce moment-là en la justice, c'est une grave erreur, comme toute
comme tout être humain. Non, tout être humain croit en la justice, voilà. Et on devrait croire en la justice, c'est logique en fait. Donc tu n'as pas à t'en vouloir, c'est normal. Donc après, tu ramènes ces enregistrements aux gendarmes, ouais. Voilà.
Ils écoutent tout.
Ils écoutent aussi.
Oui, ils écoutent. Parce qu'ils sont obligés d'écouter pour retranscrire ce qu'ils écoutent dans les PV, en fait. Donc ils ont écrit vraiment tout ce qu'ils ont entendu, même les insultes qui faisaient à mes enfants, enfin tout. Et donc je pensais avec tout ça, je me suis dit c'est bon, une fois que ça sera dans les mains du procureur, voilà, il y aura peut-être des poursuites, il y aura une suspension des droits de monsieur en attendant l'enquête, voilà, des choses assez normales, entre guillemets, je dirais.
Excuse-moi, petite parenthèse.
Ouais.
Vous étiez mariée ?
Oui, c'est ça.
Vous avez divorcé ?
Oui, c'est moi qui ai signé en divorce. Voilà, le divorce n'est toujours pas prononcé à cette heure-là.
D'accord. Et comment c'est lui qui a obtenu la garde des enfants ?
Non, en fait, c'est moi qui avais la garde de mes enfants. Mmh. Et la juge aux affaires familiales, malgré en fait, les faits de violence qu'il avait reconnus, parce qu'en fait, à la première audience, la juge aux affaires familiales, pardon, avait déjà les PV. Des plaintes pour violence sur enfant et les photos des coups, etc., des ecchymoses, et lui a dit: monsieur, c'est vous qui avez fait tout ça aux enfants? Et il lui dit: oui, en effet, c'est moi, je m'en porte un peu, mais je regrette, voilà, je suis juste un peu dépassée par moment. Et moi, je pensais en fait qu'effectivement la juge aux affaires familiales de Chartres allait lui mettre des droits en visite médiatisée le temps qu'il, je sais pas, il fasse un programme de soins ou...
Et toi, tu pensais avoir la garde, en fait?
Et j'ai eu la garde, mais il avait, en fait, des droits de visite d'hébergement classiques, comme si c'était un parent qui violentait pas ses enfants. Voilà.
D'accord, donc il a eu le droit de, venir leur rendre visite normalement comme...
De les avoir chez lui, carrément.
Voilà, de les avoir chez lui un week-end, ouais, ou une fois toutes les deux semaines, ou c'est ça.
Et la moitié des vacances.
Voilà, moitié des vacances. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a la garde, les enfants.
Ouais. Pour quelle raison ? Tout s'est retourné contre moi, en fait. Tout s'est retourné contre moi. En fait, depuis le début, on essaye d'alerter les juridictions. On leur dit attention, parce qu'il a eu qu'un rappel à la loi, hein, pour les violences. Hein, et un stage... de responsabilité parentale de 48 heures, comme un stage où on récupère des points parce qu'on a été mauvais parents. Voilà.
Après, à ce moment-là, pas pour faire l'avocat du diable, mais en vrai, à ce moment-là, c'est violent sur les enfants. C'est pas, il reconnaît pas les agressions sexuelles, il reconnaît, ouais, pas. Donc, c'est en gros, il a mis une petite fessée à son enfant. Moi, personnellement, si en tout cas, il y a combien de parents qui mettent des fessées à leurs enfants, ça ne mérite pas d'aller en prison ou en tout cas d'avoir, ouais, ouais, quelque chose de grave. À ce moment-là, je parle.
Ouais, mais là, après, c'était plus que des fessiers.
Là, c'était vraiment...
Il y a eu une luxation du coude. Ah ouais. Je me suis rendue, okay, aux urgences, okay, etc. D'accord.
C'est vraiment de la vraie violence.
Oui.
Okay, ouais, okay. Et donc après, tout se retourne contre toi et c'est lui qui obtient la garde.
Mais parce qu'en fait, on essaye, avec mon avocate de l'époque, d'alerter la juge qu'il ne s'est pas calmé. En fait, on lui avait octroyé des droits classiques. Mais il ne s'est pas calmé, les violences continuent durant son droit de visite et d'hébergement, les enfants continuent de revenir cernés, pâles, avec des bleus, ils continuent de dénoncer ce que leur père leur faisait. Il faut savoir qu'en plus de ça, il leur infligeait des privations de repas en guise de punition. Donc là, tu ne vas pas manger parce que j'ai décidé. Donc il les envoyait parfois au lit sans manger.
Ouais, c'est Koh-Lanta, quoi, chez lui.
Voilà. Donc c'est vrai que des fois, je récupérais mes enfants, ils étaient pâles, cernés, on avait l'impression qu'ils sortaient d'une morgue. Et c'est après que je me suis dit, quand il me dit non, mais il ne nous a pas donné à manger tel jour, je dis ah oui, je comprends en fait, votre pâleur, les cernes. Donc j'ai continué d'alerter avec mon avocate, la juge qui suivait notre dossier. On l'alerte, les révélations d'inceste, la plainte qu'on a déposée. On lui révèle en fait tous les nouveaux éléments, puisqu'en fait pour ressaisir un juge, même, et surtout quand il y a des éléments graves, eh ben faut le ressaisir mais avec les preuves.
Bien sûr.
Donc on le ressaisit par incident, ce qu'on appelle une audience par incident. Et à ce moment-là, en fait, il y avait une expertise qui devait se faire. Moi, j'avais déménagé parce que je pouvais plus cohabiter avec cet homme, donc j'ai déménagé avec les enfants avec son accord. J'étais à plus de 400 kilomètres. Donc, je dis à la psy, à l'époque, j'ai déménagé à plus de 400 km, est-ce possible de faire l'expertise à distance? Je pense que c'est possible de la faire en visio, comme mon avocate me l'a précisé. Elle refuse, j'en parle à mon avocate, j'entends plus parler de cette psychologue pendant un moment, jusqu'au jour où elle rend un rapport fallacieux, complètement fallacieux. Elle a reçu uniquement le père.
Fallacieux, qu'est-ce que ça veut dire?
Fallacieux, c'est complètement faux. En fait, c'est des diffamatoires.
Okay.
Et donc, selon les dires du père, elle conclut que je suis une mère dangereuse. Donc, il a déballé ce qu'il a déballé sur moi, mais complètement erroné. Il m'a tiré un portrait qui est complètement faux.
Ça ne représente pas, hein.
Et elle s'est permis de faire un rapport. Selon les dires du père, la mère paraît être une manipulatrice. Elle paraît être dangereuse pour ses enfants. Elle invente des fausses accusations de viol pour s'accaparer ses enfants. Elle paraît d'avoir le syndrome d'aliénation parentale.
Le syndrome de ?
D'aliénation parentale. C'est un terme qui est médicalement non reconnu, mais qui est encore employé par certains psychologues et par des juges, en fait, aux affaires familiales. Il faut savoir que ce SAP, le syndrome d'aliénation parentale, c'est un psychiatre américain qui l'a inventé et qui prenait la pédophilie, en fait. Et quand il a vu l'ampleur que son syndrome a pris, en fait, c'est-à-dire qu'il discréditait les victimes qui ont vraiment subi des viols au profit des agresseurs, il a fini par se suicider, cet homme. Il m'a dit, bah, en fait, merde, en fait, ce syndrome que j'ai inventé, il fait trop de mal aux victimes, il s'est suicidé. Donc, en fait, ce syndrome-là, il est encore très, très utilisé par les juridictions françaises, par les tribunaux français et par certains psychologues. Alors qu'il est... que l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, la Haute Autorité de Santé, la CIVIS, lance la sonnette d'alerte en disant arrêtez, arrêtez de prôner ce syndrome qui n'existe pas et qui n'est médicalement pas reconnu. Donc cette personne dit que j'ai le syndrome d'aliénation parentale, l'écrit noir sur blanc, et à la fin de son rapport, elle met « Je préconise au juge des affaires familiales un transfert immédiat de la résidence des enfants ». Voilà. Donc moi, je l'ai su qu'après, ce rapport, moi, je ne savais pas qu'elle avait écrit toutes ces horreurs sur moi, sans m'avoir, je précise, jamais vu, jamais entendu. Donc elle ne m'a jamais expertisée pour dire que je suis dangereuse. Et donc cette JAF, en fait, qu'on a ressaisie par incident, décide de balayer toute la procédure, toute l'enquête préliminaire pénale qui était en cours, je précise, qui n'était pas classée, qui était en cours, tous les éléments... de danger qui est représenté, que j'ai pu produire. Les enregistrements, on en a parlé. D'ailleurs, elle me dit clairement « Ouais, bah, vos enregistrements, je n'en tiendrai pas compte. Hein. » Donc voilà, elle me dit clairement, elle donne le ton.
Qui te dit ça exactement ?
Elle a juge aux affaires familiales de Chartres.
D'accord.
Voilà.
La psychologue qui établit le dossier, qui a dit que voilà, tu étais... tu me disais SAP, c'est ça ?
Ouais.
Excuse-moi encore, mais c'est un médecin,
oui,
qui a quand même des diplômes,
oui,
qui a quand même une certaine compétence. Donc, forcément, ils vont la croire. Ils vont croire cette personne. Pour quelle raison cette personne-là aurait falsifié ou aurait menti, en gros, en disant que tu étais SAP, c'est ça qu'on dit.
Malheureusement, elle a été payée par le père. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a de nombreux pères qui payent des pseudo-psychologues qui ne sont pas des vraies expertes, finalement, pour incriminer la mère, en fait. Pour, en fait, que la machine judiciaire se retourne contre elle et noyer, en fait, tout ce qu'ils ont fait aux enfants, comme viol, maltraitance. Et, en fait, c'est-à-dire qu'ils noient tout ça. Ils disent, mais non, non, regardez, elle m'accuse. Elle est folle, elle est dangereuse. Et donc, ils savent s'y prendre.
Sophie, donc, pour de l'argent... Pour de l'argent, un être humain, on est bien d'accord, c'est un être humain préfère laisser des enfants, en gros, se faire toucher sexuellement, se faire maltraiter, juste pour de l'argent, en vrai. C'est, en gros, c'est ce que la psychologue fait.
Bah, si disons qu'il y en a des. Il y a de nombreux psychologues qui.
Prennent de l'argent.
Qui suivent, en fait, ce que les pères leur disent, en fait, sur la maman, qui est complètement erronée. En fait, ils inventent des pseudo-syndromes qui n'existent pas.
Et comment ça se fait que ce rapport a été validé par la juge, sachant que
on l'a alerté.
La psychologue ne t'a jamais vu.
Ah oui, on l'a alerté en audience en plus avec mon avocate. On lui dit attention, elle a jamais. Mon avocate lui dit attention, elle a jamais reçu madame. Elle ne l'a jamais vue, ne l'a jamais entendue. Elle a produit ce rapport qui est finalement complètement fallacieux. Madame a été expertisée. Elle a expertisé son fantôme puisqu'elle ne l'a jamais vu.
Et est-ce que toi tu as fait une autre expertise avec une autre psychologue de toi-même pour prouver peut-être qu'un autre psychologue va dire ah non c'est une personne totalement normale etc pour pouvoir contrer en gros ce que l'autre psychologue payé par ton mari enfin ton ex-mari, pardon, ton ex-mari a fait.
Non, je ne l'ai pas fait parce que, en fait, on avait eu l'audience assez rapprochée, donc je n'ai pas eu le temps. Il faut savoir que les contre-expertises, c'est des rendez-vous très très loin, enfin, c'est très long à obtenir, surtout avec des vrais experts. Et en fait, l'urgence du moment, c'était la protection des enfants, en fait. Donc moi, c'est vrai que je pensais plus à protéger mes enfants qu'à moi-même. Et j'avais confiance, en fait, en cette juge aux affaires familiales de Chartres, en lui disant, attention, il y a une enquête préliminaire en cours, il y a ça, les enfants ont révélé des choses graves, il y a un signalement. Elle me dit d'emblée qu'elle n'écoutera pas les enregistrements, qu'elle ne les prendra pas en compte en éléments de preuve, mais qu'elle va faire son investigation pour voir si ce signalement existe. Elle va faire son investigation auprès du procureur. Sauf que le problème, c'est que moi, j'habite dans le Loiret, donc côté Orléans. La résidence du mis en cause, c'est-à-dire lui, habite à Chartres. Donc, en fait, les éléments les plus probants n'ont pas été transférés à temps, en fait, à la JAF. Donc, quand elle décide d'investiguer, elle dit clairement, moi, j'ai rien vu. J'ai rien. Il n'y a rien à Chartres. Effectivement, tout était resté encore à Orléans, en fait, à la gendarmerie d'Orléans. Les derniers PV, les compléments de plainte où il y avait la retranscription des enregistrements, les signalements, l'audition du maître d'école, tout était resté en fait à Orléans. Donc elle, quand elle investigue, avant de rendre son verdict, elle dit, bof, moi j'ai rien trouvé, hein. je pense que madame ment, en fait, y a rien. Et elle ne se pose pas la question que j'habite pas en Eure-et-Loire, qu'elle aurait pu appeler en fait la gendarmerie de ma région, et ou alors le procureur d'Orléans, et savoir où ça en est, mon histoire. Et elle ne l'a pas fait, je ne pense pas, puisqu'elle prend sa décision uniquement, et vraiment, je le dis uniquement, sur ce rapport fallacieux d'expertise psychologique. Donc elle transfère la résidence immédiate de mes enfants le 9 janvier, alors qu'il y avait toujours l'enquête pénale en cours, que monsieur n'avait toujours pas été entendu, mis en garde à vue ou même une audition libre, il n'y avait rien du tout. Donc on décide aujourd'hui en France de ne pas appliquer le principe de précaution, de privilégier la présomption d'innocence alors qu'il y a des éléments graves, il y a une enquête en cours qui n'est pas classée, et on transfère en fait la résidence parce qu'on pense qu'on privilégie que peut-être la maman ment, peut-être que la maman est aliénante, au bénéfice du doute que le père... Il peut faire ça, puisqu'il a déjà eu un rappel à la loi.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire même, imaginons tu mens. Quoi qu'il arrive, ils n'étaient pas en danger avec toi.
Non, du tout.
Donc en vrai, tu peux mentir, tu peux inventer même des choses si tu veux. Ils n'étaient pas en danger, donc ils auraient dû te laisser la garde. Et ensuite, voir si le père, faire expertiser le père, et voir si tes enfants, c'est bizarre chez lui quand ils sont avec lui, c'est tout. Mais pourquoi ils t'ont enlevé la garde pour lui donner la... Et tu les vois tes enfants?
Non, ça fait 4 mois que j'ai pas vu mes enfants. Et le pire, c'est qu'il y a pas eu une enquête sociale.
Pour quelle raison tu les vois pas? T'as pas le droit de les voir?
Alors en fait, dans l'ordonnance de cette JAF, c'est l'inversion des culpabilités. Je me retrouve moi sur le banc des accusés. En fait, c'est moi l'agresseur et c'est lui le parent, nickel.
Et elle me met. Excuse-moi, pourquoi l'agresseur?
Parce que le parent qui maltraite les enfants, aujourd'hui, on l'appelle l'agresseur, en fait.
Donc, pour eux, c'est toi qui maltraites tes enfants.
Voilà, l'inversion de culpabilité.
De quelle façon?
Eh bien, en fait, ils m'ont mis de voir mes enfants dans un centre médiatisé à raison de 2 heures par mois, en fait. Parce qu'ils considèrent que c'est moi qui est dangereuse pour mes enfants.
Oui.
Sans enquête sociale, sans...
Oui, on rentre dans leur délire.
Sans mesure judiciaire.
On rentre dans leur contexte. Ils considèrent que toi, Sophie, tu maltraites tes enfants.
Ouais.
Mais c'est quelle sorte de maltraitance que tu fais à tes enfants pour eux?
Pour eux, c'est de la maltraitance psychologique parce que j'infante. Ce sont des fausses accusations. Pour eux, je manipule mes enfants, je les instrumentalise, donc je représente un danger pour eux.
Ok. Voilà. D'accord.
Donc elle a pris cette décision sous un rapport fallacieux. Elle ne fait pas d'enquête sociale pour savoir vraiment la personne, la mère que je suis, ou d'enquête de voisinage, d'enquête d'école, comme certains juges le font parfois. Elle ne fait pas de mige, ce qu'on appelle la mige, la mesure d'investigation judiciaire éducative. Elle ne saisit pas nullement un juge des enfants en urgence au vu des éléments graves. C'est moi, en fait, qui saisis le juge des enfants parce que je pense que j'ai des éléments graves pour saisir un juge des enfants. Donc, il y a autant de dysfonctionnements du tribunal de Chartres qui sont très, très graves.
Et là, ça fait 4 mois que t'as pas vu tes enfants.
Alors pourquoi? Parce que je les ai vus une heure en 4 mois. C'est la première heure après l'ordonnance. Et puis, en fait, ce centre avait élaboré un planning, hein, mon planning jusqu'au mois de juin, puisque juillet et août s'enfermaient. Et comme je protégeais toujours ma fille de 2 ans, la substitut du procureur de Chartres, toujours Chartres, me fait des menaces lors de l'audience du juge des enfants du 13 mars, puisque je saisis le juge des enfants. Et on a été très, 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 très surprise avec mon avocate, ma nouvelle avocate que j'ai depuis le mois de février, maître Pauline Rangier, de voir qu'une substitut du procureur est présente à l'audience du juge des enfants. Et donc, la juge des enfants dit oui, alors ne soyez pas étonnés, il y a la substitut du procureur. Elle souhaite être présente à cette audience. Et en fait, elle commence avec un air très hautain par dire « Oui, alors c'est moi qui ai classé votre plainte sans suite, madame, parce que je pense que vous êtes une menteuse. Et en plus, à ce jour, vous n'avez toujours pas livré la petite dernière de 2 ans à son père, alors que l'ordonnance du juge aux affaires familiales de Chartres ordonne le transfert, non pas des 3, mais des 4 enfants. Alors, si vous ne la remettez pas dans les prochains jours, je vais vous poursuivre pour soustraction d'enfants. » Et en fait, elle était venue à l'audience pour me menacer. Donc, mon avocate Pauline Rangier...
Attends, excuse-moi, Sophie. Tu l'as grave bien imitée, là.
Ouais, elle était vraiment comme ça. Elle était vraiment comme ça.
Là, j'étais à l'audience. Là, j'étais en pleine audience.
Voilà.
Et parle comme ça.
Ah oui, elle était comme ça. Donc, c'est une jeune substitut. Elle doit avoir 25-27 ans. Sapé Jean, Vance. Voilà.
Ouais, donc, elle voulait vraiment... En fait, ouais.
Donc, mon avocate, Pauline Rangier... Et sa collaboratrice, puisqu'elles étaient venues à deux pour me représenter, elles étaient complètement choquées. Elles ont dit à la juge des enfants, oh, hey, arrêtez. Madame, elle est venue pour défendre ses enfants, pour porter encore la voix de ses enfants, parce qu'elle a espoir en vous, juge des enfants, que vous suspendiez l'ordonnance du juge aux affaires familiales en attendant l'enquête.
Et elle vient,
la substitue du procureur qui prolifère des menaces à ma cliente. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, la juge des enfants, elle a dit, poursuivez. Voilà, c'était. On se trouvait dans une scène, mais...
Pour quelle raison tu penses qu'ils ne prennent pas ton parti? Pour quelle raison
En fait, aujourd'hui, les violences sexuelles faites aux mineurs, c'est une omerta. C'est un sujet très tabou. Alors que pourtant, il y a quand même 160 000 victimes d'inceste en France. Donc, 160 000 victimes d'inceste en France, donc des mineurs. Donc, il y a potentiellement 160 000 agresseurs. Donc, on ne peut pas avoir des victimes sans agresseurs. Donc, pour eux, les victimes sont peut-être là, mais il n'y a pas d'agresseurs, en fait. Alors que ce n'est pas possible. Quand on sait que, quand ils disent « Non, mais c'est peut-être des fausses accusations », la Civise, quand même, qui a été mandatée par le président Macron depuis 2 ans, la commission donc individuelle des violences sexuelles faites aux enfants, dit qu'il n'existe que 2% de fausses allégations. 2%. Donc, ça veut dire que 98% des dénonciations d'enfants de viol, d'inceste, sont véridiques. Elles sont véridiques. Et il y a ce tabou, cette impunité, en fait, de balayer systématiquement la parole de l'enfant parce que il y a un conflit. Ils mettent souvent les juridictions. Il y a un conflit parental, il y a un conflit conjugal. En fait, l'un veut se venger sur l'autre, alors l'un accuse l'autre d'eux pour s'accaparer la garde d'eux. Donc, ils préfèrent privilégier... dire qu'il y a un des parents qui a le syndrome d'aliénation parentale, qu'il y a un conflit parental, alors qu'il n'y a pas de conflit parental. Il y a des enfants qui ont dénoncé des faits graves. Il y a des parents qui se sont séparés à cause des violences. Donc ça, il faut en tenir compte, mais ils n'en tiennent pas compte. Parce qu'à la base, je me sépare du père à cause des violences qu'il inflige aux enfants. Et donc, il dit, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je pense que vous voulez vous accaparer vos enfants. Vous inventez des choses pour vous accaparer vos enfants. Monsieur est innocent. Alors qu'il y a des preuves, il y a des signalements. Il y a un témoin dans l'affaire, c'est le maître d'école. Il y a des enregistrements que j'ai fait retranscrire à son insu et qui sont récents.
Aujourd'hui, Sophie, qu'est-ce que toi, tu veux, en vrai?
En fait, moi, j'aimerais qu'il y ait une enquête du parquet général sur le tribunal de Chartres et ses gros dysfonctionnements. Parce qu'il faut savoir quand même, pour me mettre un mandat d'arrêt, parce que je protège ma dernière par principe de précaution et de nécessité, et on décide de m'arrêter au centre médiatisé quand j'allais voir mes enfants en visite, il faut savoir que je me suis fait arrêter devant mes enfants. Donc, j'allais en visite ce jour-là. Donc, lui, il a donné l'alerte au à la substitut du procureur en disant vous envoyez des policiers, vous allez la trouver parce que je vais emmener les enfants au centre médiatisé et elle va forcément venir voir ses enfants en visite. Donc lui, il a donné l'alerte à la substitut du procureur, qui la substitut du procureur a donné l'alerte aux policiers.
Il a donné le go, quoi.
Voilà. Donc moi, je me rends au centre médiatisé pour voir mes enfants ce jour-là. Au bout de 20 minutes, alors que la visite doit durer une heure, au bout de 20 minutes, la directrice du centre me dit « C'est fini, madame ». Je dis « Mais ça fait 20 minutes, madame. C'est pas une heure, la visite avec mes enfants. Déjà que j'ai très, très peu de droits à mes enfants. Je les vois que 2 heures par mois. Ah non, mais vous allez comprendre après. Vous allez comprendre après. » Je dis « Qu'est-ce que je vais comprendre ? Mes enfants, ils ont à peine enlevé leur manteau. On s'installe pour prendre un petit goûter. Mon fils commence à déballer un jeu de société. » Et je dis « Non, madame, c'est une heure. Une heure, c'est une heure. » Elle me dit « Non, madame, c'est 20 minutes, c'est terminé. Bon, allez, les enfants, vous mettez vos manteaux, s'il vous plaît. » Je dis « Mais non, madame. Non, c'est 20 minutes. » J'ai dit « Je vais appeler mon avocate. » « Non, mais de toute façon, c'est prévu, vous allez comprendre. » Et puis elle dégage mes enfants d'une violence, mes enfants qui ne comprennent rien, qui sont ahuris, en fait, et qui me regardent d'un air très triste, mais peiné, mais en même temps, ils s'interrogent de la situation. Et là, je vois, en fait, débarquer quatre policiers en civil. « Oui, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous suivre. » Mes enfants complètement choqués. Et là, j'ai compris que les menaces de la substitut du procureur le 13 mars, elle les a menées à exécution.
Elle les a impliquées.
Puisque je me fais arrêter le 29, donc elle a été très rapide. Elle les a menées à exécution. Et donc tout de suite, je fais de la garde à vue. Donc 24 heures qui sont prolongées. Donc de 20...
et ces 24 heures-là, ils te disent « On veut savoir où est ta fille, c'est ça ?»
Et en fait, c'est ça qui est le plus grotesque. Ils ne me posent même pas de questions sur ma fille. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'appelle mon avocate
vous,
pour...
Quand tu dis vous, tu me vous vois moi ou tu dis vous aux gens qui nous regardent?
Oui, aux personnes.
Ah oui, parce qu'on se tutoie, toi et moi.
Voilà. Et je demande en fait à l'OPJ d'appeler mon avocate, que je ne répondrai pas aux questions sans la présence de mon avocate.
Bien sûr.
Donc, mon avocate, Pauline Rangier, est du barreau de Paris. Donc, il lui faut du temps pour venir du 18e jusqu'à Chartres, donc le 28. Pendant ces heures-là, moi, je suis dans ma cellule. Et quand mon avocate arrive, les questions étaient complètement absurdes. En fait, il faut savoir que quand on m'a arraché avec violence mes enfants, j'ai filmé la scène au tribunal. J'ai filmé la scène parce que j'ai trouvé ça tellement violent. Mes enfants qui s'accrochaient à moi, qui disaient « Maman, non, on veut rester avec maman. Papa, il nous fait ci, il nous fait ça. » Et puis, il supplie la juge des enfants d'Orléans de les écouter. Elle dit non, madame, elle doit partir, elle doit. Moi, j'exécute le jugement JAF. Les enfants doivent repartir avec madame. Et mes enfants s'accrochent à moi. Et moi, j'ai dit non, c'est trop. Et moi, j'étais en stress. Je prends mon téléphone, je filme. Ils essayent de me l'arracher à plusieurs reprises. Il y a des avocats qui essayent de me l'arracher de la partie adverse. Il y a la juge qui essaye de m'arracher. Il y a le gars de la sécurité du tribunal qui essaye. Je dis non, vous ne touchez pas mon téléphone. Vous ne touchez pas. Vous ne le touchez pas. Et donc, je filme toute la scène. Alors, c'est un peu. Ça va un peu dans tous les sens, mais je filme. Je dis, regardez, on ne protège pas les enfants. On ne protège pas. Mes enfants demandent à être protégés. Ils supplient encore une énième fois le juge des enfants de les protéger, qu'ils restent avec leur maman. Et vous voyez, regardez la scène. Ils sont en train d'être brutalisés, en train d'être arrachés de leur bras de maman avec une violence. Donc je filme toute la scène. Je filme la scène où on me pousse, où je failli tomber dans les escaliers, où tous mes dossiers s'étalent par terre. Mes enfants, je les entends pleurer et hurler. Et je leur dis, laissez-moi dire au revoir à mes enfants. Laissez-moi dire au revoir à mes enfants. Et en fait, là, il y a un policier qui arrive. Arrêtez, ou je vous colle à un outrage. Je dis, monsieur, vous voulez me coller à un outrage? Je vous ai insulté, monsieur. Et après, il fait, non, une rébellion. Donc là, je me dis, mais oui, il veut me faire une bavure policière, en fait. Il veut me faire des faux chefs d'accusation, tout ça, parce que j'essaie de protéger mes enfants. Je dis, monsieur, je vous ai insulté. Non, mais là, vous vous rebellez, donc je vous coller une rébellion. Je dis, mais monsieur, collez-moi une rébellion. J'essaie de protéger mes enfants. Et donc, il ferme la porte, il essaie de me pousser plein de fois. En fait, j'ai résisté jusqu'au bout pour protéger mes enfants. Mais moi, j'ai été arraché avec une extrême violence. Donc, toutes ces scènes-là, je suis en choc. Là, en fait, je sors du tribunal complètement. C'est comme si je voyais une scène de meurtre, en fait. C'est comme si j'avais vu une scène de meurtre. C'est comme si mes enfants étaient. Ça y est, on m'a tué avec eux. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Il faut que je poste ça sur les réseaux. Et je crée un compte Instagram. Et en fait, à ce moment-là, je suis complètement anéantie parce que je me dis, mes enfants, ils ont compté sur moi jusqu'au bout. Je les ai protégés jusqu'au bout. Et je me dis, non, il faut que je continue de me battre. Là, OK, ils me les ont enlevés. Ils me les ont arrachés. Ils m'ont poussé pour me les arracher. Mes enfants, ils étaient là. Et je dis, je ne vais pas m'arrêter là. croyez-moi que, oh mon Dieu, croyez-moi que je vais pas m'arrêter là. Et je sors du tribunal, la première chose que je fais, c'est je crée un compte Instagram, je suis en état de choc là. Je m'assois sur un trottoir et je crée un compte. Je balance toutes les vidéos. Je balance tout, je dis c'est un SOS, c'est un SOS. Mes enfants ont été transférés avec violence, ils accusent le père de viol, ils ont été violés. Voilà, voilà l'histoire qui sont réservées aux enfants quand ils dénoncent. Regardez comment ils ont été arrachés violemment. Ils sont suppliés jusqu'au bout, le juge des enfants, de les protéger. Il faut savoir que mon fils de 8 ans et demi avait même écrit une lettre au juge pour voir tout ce qui... En fait, il a décrit avec ses mots d'enfant tout ce qu'il voyait, en fait, ce que son père infligeait à ses frères et sœurs en termes de viol. Et il disait à la fin de sa lettre, « S'il vous plaît, monsieur le juge, je ne veux plus aller là-bas chez mon père. » Et même cette lettre, enfin... Voilà, c'était... Donc cette lettre, j'essaie de... je la scanne et je la balance sur les réseaux, la lettre de mon fils, la dernière lettre de mon fils, les derniers dessins de mes enfants qui sont assez accablants. Dans un dessin de ma fille Jade qui a 4 ans et qui dessine son père avec son zizi apparent sur le dessin. Elle met même des détails assez extraordinaires. Elle met des poils au zizi. Elle met des poils au zizi dans son dessin. Elle met ses frères et sœurs en train de pleurer. Ce dessin, je le prends en photo. Je le balance aussi sur ma page Instagram. Les derniers dessins de mes enfants, la lettre de mon fils, les vidéos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, mes vidéos en font 1,4 million de vues. Donc, je pense que sûrement, ça a dû être vu par des élus, des députés, le garde des Sceaux. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, mes stories sont vues par des députés. J'ai vu qu'il y a des députés qui ziotent mes stories que je poste encore aujourd'hui. Donc, ils détournent le regard et c'est insoutenable.
Qu'est-ce que tu veux, Sophie, aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux réellement? Mais, ouais, dis-nous qu'est-ce que tu veux.
Alors moi, en fait, tout simplement, je sais que l'erreur est humaine et c'est pas parce qu'on est magistrat qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, ce qui est plus choquant, c'est de ne pas entendre la voix de l'enfant, c'est de ne pas prendre en compte les preuves, c'est de continuer à avoir un acharnement contre mes enfants et moi, de bafouer complètement les droits de mes enfants et les miens. Je suis en rupture totale de lien. Ils ont la possibilité de rectifier encore le tir.
Comment?
Tout simplement, j'attends pas des excuses et mes enfants n'attendent pas des excuses. N'attendent pas des excuses, mais dire ok, je pense qu'on aurait dû prendre un peu plus de précautions. On va mettre le fin à ce supplice, à ce calvaire. Les enfants vous reviennent. Voilà, l'erreur est humaine. Je peux le comprendre. Mais le problème, c'est qu'ils ont continué un acharnement. Le tribunal de Chartres continue son acharnement. Ils m'incarcèrent. Pendant 3 semaines, je suis placée à l'isolement. L'isolement, c'est quand même grave.
Comment tu l'as vécu, justement, la prison? C'est la première fois que tu y allais?
Ouais. J'ai fait une grève de la faim. En fait, à partir de ma garde à vue, j'ai fait une grève de la faim. Voilà. Pour protester tout ce qui m'arrive, hein, justement. Et j'ai continué ma grève de la faim pendant 3 semaines. J'ai perdu du kilo. J'ai essayé, en fait, de protester comme j'ai pu, avec tous les dysfonctionnements que le tribunal de Chartres s'acharne sur moi. Il faut savoir que mon téléphone, il est toujours sous scellé judiciaire, alors qu'il n'a pas à l'être, puisque j'ai été libérée. Mais comme ils savent que j'ai des preuves dedans, donc ils s'obstinent à le garder.
Et tu as été libérée fin de peine? Ils t'ont mis combien de peine? Comment tu as réussi à sortir de prison? Et tu l'as vécu, tu as dit que tu as fait une grève de la faim, d'accord? Mais
oui.
À l'intérieur de la prison, c'était la première fois, donc c'était dur pour toi. Il y avait de la peur au début aussi, parce que avec tout ce qu'on raconte autour de la prison, tout ce qui se passe en prison aussi, avec les détenus, etc. Mm. Est-ce que c'est vraiment comme dans les films ou pas?
Alors après, moi, je suis allée à la MAF, à la maison d'arrêt pour femmes d'Orléans-Saran, qui est une prison. Elle est pas ancienne, elle a 5 ans, donc c'est assez neuf à l'intérieur. Mm. Donc ça va, c'est pas une prison vétuste. Le plus dur, c'était d'être à l'isolement et de pas avoir accès à un tire-lait parce que j'allaitais encore ma fille de 2 ans. J'ai demandé le tire-lait 1 million de fois, on me l'a jamais donné.
Ta fille était où?
Ma fille était en sécurité. Et en fait, la dernière phrase qu'on me pose avant de prononcer que je suis incarcérée, c'est où est votre fille? Et je leur dis, ma fille est en sécurité et en bonne santé. Ouais, mais vous ne répondez pas à la question. Je vous réponds comme cela doit être. Et elle était en sécurité et j'avais réussi à la mettre en sécurité, c'était l'essentiel. Donc je sais qu'ils m'incarcèrent un peu pour ça.
Et ils t'ont mis combien de temps de prison alors?
Alors, j'étais en mandat de dépôt pendant 3 semaines avant mon audience de jugement. Il faut savoir qu'ils ont essayé de me charter, à essayer jusqu'au bout, vraiment de me mettre des choses, mais j'ai encore du mal à le dire aujourd'hui, des faux chefs d'accusation. Alors, la soustraction d'enfants pour eux, c'est justifié parce que je ne veux pas rendre ma fille de 2 ans alors qu'il en a le droit. Ok, très bien, même s'ils ne veulent pas appliquer le principe de précaution. Mais les faux chefs d'accusation, comme quoi j'avais fait une page Instagram et que je faisais un appel à la haine à magistrat, que j'ai fait du cyberharcèlement à magistrat, ça, c'était grave. Je dis, mais enfin, vous avez des preuves comme quoi j'ai fait de l'harcèlement à magistrat? Oui, vous avez fait une page Instagram. Vous avez balancé vos vidéos, mais oui, c'est ma liberté d'expression, madame. J'ai fait ce compte parce que je suis en détresse. Je suis une mère qui veut encore protéger ses enfants et qui tente toujours de les protéger. Donc, j'ai balancé mes vidéos où il y a eu l'arrachage violent de mes enfants. J'ai posté des éléments de procédure en cachant l'identité du père, l'identité de la juge. Et on m'accuse que je fais du cyberharcèlement à magistrat et que je fais un appel à la haine de mes abonnés à magistrat. Tout ça parce que j'ai eu un comité de soutien qui s'est créé et j'ai eu des abonnés qui ont écrit au tribunal de Chartres par email et qui ont fait des appels en masse et qui ont dit « vous faites une grave erreur ». Nous, on a vu les vidéos des enfants de Sophie. On a vu tout ce qu'elle a posté en éléments de procédure. On pense que vous vous trompez. Donc, en fait, ils n'ont pas été haineux, mes abonnés. Ils ont juste écrit au tribunal de Chartres. Ils ont fait des appels et ça n'a pas plu, en fait, à la greffière qui a dû, ce jour-là, intercepter peut-être une quarantaine de messages. Et ils m'ont dit, vous faites un appel à la haine, à magistrat. Et donc, heureusement, ces faux chefs d'accusation ont trouvé une nullité. Je remercie encore mon avocate Pauline Rangier. Qui a démontré que je ne suis pas responsable de ce que mes abonnés ont fait. Ils ont fait un comité de soutien.
Ils ont fait un appel en disant il faut aller appeler la magistrate, oui, et lui la menacer ou autre.
Non, non.
T'as juste montré ta détresse, t'as juste montré ce que voilà, t'avais envie. Y a deux versions. On dit toujours, je dis toujours, j'ai toujours une phrase que je dis, c'est dans une histoire, il y a toujours 3 versions.
Ouais.
Y a ta version, il y a ma version. Et il y a la vérité.
Ouais.
Quelle est la vérité aujourd'hui de cette vraie histoire? Parce qu'il y en a qui se posent des questions aussi, qui se disent est-ce que c'est vraiment réel? La justice, comme la justice aussi, qui disent que voilà, t'es perturbé psychologiquement. Est-ce que c'est la réalité? Aujourd'hui, les audios, tu les as pas mis sur...
Dernièrement, il y a quelques jours, j'ai décidé avec l'accord de mon avocate de les poster. Parce qu'on s'est dit, Chartres s'obstine à ne pas vouloir écouter ces éléments de preuve. Et j'ai dit, maître Pauline Rangier, je vais les balancer. Je vais les balancer et advienne que pourra. C'est dommage parce que ils avaient la possibilité, entre petits comités magistrats, de les écouter. Donc, vraiment, à 7 magistrats. Et là, c'est dommage parce que ça sera diffusé. Vraiment beaucoup de personnes qui vont les écouter. Il faut savoir qu'en 2 jours, ils ont fait 1,4 million de vues, mes enregistrements. Donc, 1,4 million d'écoutes. Mes enregistrements, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes m'ont écrit que je peux pas ouvrir tous les messages, mais très choquée que des magistrats, en plus de la parole de mes enfants, en plus des signalements, en plus du maître d'école qui est le témoin du calvaire que mon enfant lui a raconté, qui n'ont pas été pris en compte, et les enregistrements qui prouvent, en fait, qui affirment, en fait,
le calvaire. Tu les as postés sur quoi? Sur ta page Instagram?
Oui,
ou sur,
tout
c'est
à fait.
La page Instagram, si
c'est justice pour mes 4 enfants, donc justice attachée pour le chiffre 4, enfants au pluriel. Voilà.
Justice pour mes 4 enfants.
Voilà. Donc, et ça n'a pas plu, hein, je pense, à la partie adverse ou au tribunal de Chartres, puisqu'on a essayé de bloquer mon compte à plusieurs reprises. On a essayé de me le faire fermer. J'ai été bannie pendant 3 jours d'Instagram. Je ne pouvais plus rien poster. Je ne pouvais plus répondre à mes abonnés. Donc, ça riposte sévère de l'autre côté.
Pourquoi les médias aujourd'hui, tu as décidé de venir aussi dans cette émission et d'en parler pour quelles raisons?
Parce que en fait, il y a un véritable fléau. En fait, c'est que les gens ne savent pas le calvaire quand on s'engage à faire des plaintes pour viol sur mineurs par ascendant. Donc par ascendant, c'est par un des parents. On s'imagine pas une seule seconde que la machine judiciaire va se retourner contre nous, en fait. Mais pas une seule seconde. Et en fait, quand j'ai créé cette page, c'était vraiment en détresse. Et j'ai reçu, mon Dieu, il n'y a pas un jour qui passe où je reçois des témoignages de mamans de toute la France qui ont subi la même chose, le même revirement de situation. Je suis en contact proche avec une personne une maman de Chartres qui est victime de Chartres, deux autres mamans, que leur enfant a dénoncé l'inceste. Et la machine judiciaire s'est retournée contre eux. Vous êtes une menteuse, madame. Et donc, ils ont transféré l'enfant à l'agresseur. Donc, ça fait quand même beaucoup de cas pour le tribunal de Chartres. Bon, alors, elle n'est peut-être pas le seul. Il y a beaucoup de tribunaux français qui agissent de la même façon. Mais Chartres, c'est vraiment systématique. Ils envoient les enfants chez leurs bourreaux. C'est insoutenable. Il y a un véritable fléau en France de cette parole des enfants qui est niée, qui est balayée au profit de la présomption d'innocence de l'agresseur. Et c'est un fléau.
Mais après, c'est quand ça les arrange. C'est quand ça les arrange. Hein. Parce que quand c'est pour aller chercher une personne qui a frappé son chien, ils y vont une seconde. Ouais. Quand c'est pour chercher une personne qui a vendu de la drogue, ils y vont une seconde. Quand c'est pour chercher quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui est un pédophile ou truc, c'est présomption d'innocence.
En fait, moi, j'aimerais.
Et ça dépend pour qui. Hein, parce ouais. que on a pu voir plein d'histoires aussi de viols. Par exemple, avec l'histoire Benjamin Mendy, etc. Tout le monde lui est tombé dessus, Au final, bon, il s'avère que... voilà. Mais t'en veux pas, toi, un peu aux personnes qui... Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de Pierre et Loulou, tu vois. Aux personnes qui ont menti pour avoir la garde des enfants ou qui ont menti pour faire tomber quelqu'un, pour peut-être de l'argent ou autre. Et qui, au final, voilà, justement... Les personnes comme toi qui disent peut-être la vérité, on ne les croit plus.
Mais il n'y a que 2% de fausses allégations. C'est ça que les gens ne comprennent pas, que les magistrats ne comprennent pas. Il n'y a que 2% de fausses allégations. Qu'est-ce qu'en fait, on en tirerait, nous, en fait, les mamans qui essayons de protéger leurs enfants des violences physiques et sexuelles ? Puisqu'on perd tout. On perd tous nos droits. Nos enfants nous sont arrachés, on n'a plus de nouvelles d'eux. Peut-être 1 à 2 heures par mois dans un centre médiatisé qui nous regarde comme si on était une mère criminelle. Certaines sont internées. Il faut le savoir, ça. Il y a des mamans en France où la machine judiciaire les a tellement broyées qu'elles ont perdu un peu la raison. Alors, quand je dis la raison, c'est qu'elles ont perdu pied dans leur bataille judiciaire et on a dit oui, on va l'interner. Et il y a des mamans, il faut savoir qu'en France, qu'elles sont internées pour ça, parce qu'elles ont essayé de protéger leurs enfants d'inceste. Elles sont internées ou incarcérées ou condamnées. Moi, j'ai été incarcérée plus condamnation. Donc, il y a quand même. Une mesure. On attend aujourd'hui, 7 juin, Charlotte Caubel, la ministre de l'Enfance, a dit nous allons révéler des nouvelles mesures d'urgence pour la protection des enfants. Alors j'espère que c'est des mesures concrètes et des actions concrètes et non pas juste pour endormir le peuple, excusez-moi.
Ouais, ils aiment beaucoup endormir le peuple.
Voilà. Donc j'espère que c'est des mesures concrètes parce qu'il y a vraiment une urgence, il y a vraiment. Il y a un fléau et les magistrats, en fait, ne sont pas formés. Enfin, pourquoi, en fait, aujourd'hui, il n'y aurait pas, comme le modèle espagnol, des juridictions spécialisées ? Donc, il y a la sénatrice, Madame Laurence Rossignol, qui, elle, propose ça au Sénat, qui est, comme le modèle espagnol, des juridictions spécialisées, c'est-à-dire des magistrats qui ne sortent pas juste de l'ENM avec « c'est bon, on vous met magistrat tout de suite ». Non, non, ils sortent de l'ENM, mais il y a une spécialisation pour les violences faites aux enfants. L'autre pour les féminicides, pour les violences faites aux femmes. Mmh. Voilà. Et c'est ce que nous, on veut aujourd'hui. On aimerait bien qu'il y ait des juridictions spécialisées. On aimerait bien qu'il y ait des personnes formées. L'ASE en particulier aussi, l'aide sociale à l'enfance, qui la plupart ne sont pas formées. On aimerait bien qu'il y ait des personnes formées, que ce soit à l'aide sociale à l'enfance, et sensibilisées à tout ça. Et des magistrats qui ne vous sortent pas. Mais non, vous êtes aliénante. Sûrement, vous êtes manipulatrice. Non, formez-vous au psychotrauma. Formez-vous aux violences sexuelles faites aux enfants. Formez-vous à ce que c'est l'inceste. Formez-vous avec des experts en psychotrauma, des victimes, avec les victimologues, les criminologues. Il faut qu'il y ait des
personnes compétentes qui ont fait des études.
Des formations en criminologie en plus de leur formation de magistrat. C'est le modèle espagnol et ça marche très bien en Espagne. On évite des féminicides. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais là, à Chartres, ils ont cumulé tellement de bourdes, je suis désolée, parce qu'ils ont beau s'acharner contre moi, mais ils ont pas les mains propres.
C'est-à-dire
que dernièrement, je sais pas si vous êtes au courant, il y a eu un triple homicide à Chartres. Et en plus, ça dépendait encore une fois du tribunal de Chartres. C'est un père qui a fait de la prison pendant un an. Donc, il est sorti avec une remise de peine. Normalement, il devait faire un peu plus. Pour des violences conjugales très lourdes. Malheureusement, la juge des enfants de Chartres voulait maintenir à tout prix, coûte que coûte, le lien parental avec ses enfants. tout en sachant qu'il a fait un an de prison pour des violences très très lourdes. Le juge Édouard Durand dit que un mari violent n'est pas un bon père, et je supporte et je soutiens cette phrase, un mari violent n'est pas un bon père.
Ah bon ?
Et oui, pour moi, un mari violent n'est pas un bon père, vraiment. Parce que s'il peut frapper sa femme devant ses enfants, comment il pourrait éduquer ses enfants ? Quelle image il renvoie à ses enfants ? Je frappe votre maman parce qu'elle m'énerve. Elle a fait le café est froid. Donc c'est une image en fait de père qu'on veut inculquer à ses enfants. Donc pour moi, oui, le juge Édouard Durand, quand il dit un mari violent n'est pas mon père, c'est véridique. Et le problème de ces juges, c'est que au détriment de l'intérêt supérieur des enfants, qui eux, faut pas oublier, c'est les premières victimes dans tout ça. Ils restent des victimes, ni plus ni moins en fait. On veut maintenir coûte que coûte le lien avec ce parent. Pourquoi on suspendrait pas en fait les droits le temps que cette personne retrouve raison, fasse une thérapie, une médiation familiale, pour comprendre pourquoi il est comme ça? Non, on maintient le lien parce que l'enfant, il a des devoirs et des droits, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a plus de droits envers ce parent que de devoirs en fait finalement. Oh. Donc
ils ont maintenu le lien et après qu'est-ce qui s'est passé donc?
Eh ben, il est sorti de prison. Apparemment, la maman, elle avait déjà porté plainte parce qu'il avait gardé le double des clés de la maison.
D'accord.
Il est parti saccager
la maison,
leur ancien chez eux, où ouais. il habitait avec la maman. Il a mis un tracker sous la voiture de sa femme pour suivre ses faits et gestes. Elle a vu le tracker sous sa voiture, donc elle a été à la gendarmerie de Chartres, voilà, au commissariat de police de Chartres, pour le mentionner. Elle a été voilà, regardez chez moi. Je pense que c'est lui. Elle n'a pas eu de protection. Voilà. Il est venu, il a égorgé sa femme, sa fille de 13 ans et le bébé de 18 mois. Voilà. Et il est parti. Sauf que en deux jours, ils l'ont retrouvé.
Incroyable.
Voilà. Donc c'est ça, c'est maintenir le lien, mais au détriment de quoi, en fait, finalement?
Ouais, c'est chaud. Sophie, merci.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Mais merci à toi. Je vais te laisser quand même le mot de la fin. Si tu avais un mot à dire à la justice française, aux magistrats et aussi à tes abonnés, ça serait quoi?
En fait, j'ai des abonnés en or, je peux le dire aujourd'hui, c'est vrai que ça dérange énormément le tribunal. J'ai des abonnés en or qui me soutiennent depuis le début de mon combat, donc depuis ce maudit 13 février où on m'a arraché mes enfants. J'ai une communauté très grandissante qui veulent être là pour moi, qui veulent faire des rassemblements, qui veulent protester avec moi, qui veulent sauver mes enfants avec moi concrètement. Donc vraiment, je leur dois une reconnaissance éternelle pour ça, parce que c'est ce qui m'aide à survivre au quotidien. Et croyez-moi que j'ai vraiment le yo-yo des émotions. Mes émotions sont en dents de scie. Il y a un jour où ça va pas du tout, où je me dis non, ça va pas le faire, on va jamais prendre mes enfants. Et il y a des jours où, grâce aux petits mots de mes abonnés qu'on m'envoie par message privé ou en commentaire, j'arrive à me dire non, tu peux pas abandonner. Il y a des gens qui te soutiennent. Il y a tes enfants qui t'attendent, tu n'as pas le droit d'abandonner en fait, pas si près du but. Et donc je les remercie infiniment pour ça, c'est grâce à eux que je tiens encore debout. Et aux magistrats qui osent en fait prôner le SAP, le syndrome d'aliénation parentale, qui est absolument à proscrire, qui osent mettre le conflit parental et le conflit conjugal alors qu'il y a des réelles violences et qu'il y a des réelles agressions, s'il vous plaît, enfin, écoutez la parole de l'enfant. Essayez d'étudier les dossiers, même si je sais que les tribunaux sont engorgés, mais prenez juste un petit peu de votre temps pour étudier les preuves qu'on peut vous apporter, les signalements. Ne transférez pas immédiatement la garde à l'agresseur, parce que à côté, c'est vous dites à l'enfant, en plus de la double peine qu'il a reçue, c'est-à-dire il a été violenté, violé, vous lui dites: tu as été violenté, tu as été violé, mais moi je ne te crois pas, tu es menteur. Donc je te remets à ton agresseur, tu vas continuer de subir. Et moi je vais te punir toi, je vais punir le parent qui a tenté de te protéger. Et c'est ça que l'enfant reçoit aujourd'hui. Comment des enfants qu'on renvoie chez leur agresseur peuvent se construire? Quelles images ils ont des adultes qui ne les ont pas écoutés et protégés? Quels adultes ils vont devenir? Parce qu'une agression sexuelle sur un enfant, c'est pas réparable. C'est pas réparable. Donc... il y a des thérapies, il y a... Oui, ça existe. Mais de ne pas avoir été cru et protégé, ça, c'est autre chose. C'est une reconstruction personnelle. Et les victimes se retrouvent face à elles-mêmes. Et des enfants qui n'arrivent pas à dissocier, ça, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Et qui sont en rupture totale du lien avec le parent qui a tenté de les protéger. C'est encore aberrant, en fait. C'est encore plus aberrant. Le tribunal de Chartres, aujourd'hui, décide de me m'enterrer vivante. Le centre médiatisé qui, normalement, je devais voir mes enfants, a décidé, sans aucune décision de justice, d'effacer mon planning de visite. C'est grave. C'est grave d'enterrer vivant des parents. C'est grave de dire aux à ses enfants, vous ne reverrez plus votre maman parce que moi j'ai décidé de supprimer vos plannings de visite avec votre maman. Pourquoi ? Sous quelle décision de justice ? C'est très grave ce qui se passe en France. Il faut se réveiller, il faut que la société se réveille sur ce fléau. On ment pas, nos enfants ne mentent pas. Quel intérêt a une mère à inventer, à accuser des violences sexuelles ? On perd tout, on a tout à y perdre, notre santé. La santé se dégrade, la santé mentale, physique. Certaines sont en cavale comme moi pour protéger un des enfants qu'elles ont réussi à sauver. C'est pas possible en fait. On survit. Donc, faut arrêter, faut stopper le massacre. Faut stopper le massacre, il faut se ressaisir. Il faut que les magistrats se forment.
Merci.
Voilà.
Merci Sophie.
Merci infiniment.
Merci d'être venue dans l'Octogone. C'est la fin de cet Octogone. On se retrouve dimanche. On peut rappeler quand même tes réseaux un peu. Justice.
Justice pour mes quatre enfants sur Instagram.
D'accord. Merci Sophie en tout cas d'être venue dans l'Octogone. On se retrouve dimanche prochain la famille pour un Octogone.
Génération Hip Hop Soul Radio.